J'en arrive à la présentation de l'orateur du jour, Bertrand Lortolari. Bertrand est un autre brillant diplomate. Après des diplômes de Sciences Po, de l'Université Paris-Dauphine, de Langzhou en chinois, il réussit l'ENA. Et à l'issue, il choisit le Quai d'Orsay. Son parcours le conduit à Washington, où nous étions ensemble, pendant les années difficiles de la guerre en Irak, puis à Pékin. De 2008 à 2012, il a été en charge des dossiers asiatiques à l'Élysée, où nous étions de nouveau ensemble, avant de rejoindre New York comme consul général de 2012 à 2016. Ambassadeur de France au Vietnam de 2016 à 2019, il est nommé directeur d'Asie au Quai d'Orsay en 2020, puis conseiller diplomatique du Premier ministre et enfin ambassadeur en Chine, où il représente avec beaucoup de talent notre pays depuis 3 ans. Il n'y a pas de meilleur connaisseur de ce pays, ni des relations si importantes entre les États-Unis et la Chine, compte tenu de son parcours. Nous allons l'écouter avec le plus grand intérêt. Cher Bertrand, tu as la parole.
Monsieur le Président, cher Jean-David, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, permettez-moi cet après-midi de débuter mon propos devant vous par une question. Si le thème de la transformation profonde du monde que vous propose cette année le président Leavitt avait été retenu par vos prédécesseurs pour leurs propres travaux il y a 50 ans, en 1976, quel sujet l'Académie aurait-elle examiné au fil des mois ? Le premier choc pétrolier et ses répercussions, sans aucun doute. Les premiers pas en France du G7 que notre pays préside à nouveau cette année. La guerre froide, bien entendu, avec par exemple la fondation officielle d'un Vietnam réunifié sous la coupe communiste après la chute de Saïgon quelques mois plus tôt, ou encore la tragédie du génocide Khmer Rouge au Cambodge. Faisons, si vous le voulez bien, un instant la même expérience avec l'année 1996, il y a 30 ans. Les choix auraient probablement été le bouleversement pour Israël et le Moyen-Orient, représenté par la première accession au pouvoir de Benjamin Netanyahou, la première prise de Kaboul par les talibans avant celle de l'été 2021, ou encore la première accession au fauteuil de secrétaire général des Nations Unies d'une personnalité issue d'Afrique subsaharienne, Kofi Annan. De la Chine et de sa capacité à transformer le monde, il n'aurait sans doute pas été question, ni en 1976, année pourtant de la disparition de Mao Zedong et de Zhou Enlai, ni même probablement en 1996, alors que le père de l'ouverture chinoise, Deng Xiaoping, vivait ces derniers mois. En 1976, la Chine était en effet, sur le plan économique, un acteur marginal à l'échelle du monde. Elle ne représentait qu'à peine 1% du commerce mondial. Et elle l'était d'autant plus qu'elle avait fait le choix de la fermeture depuis la fondation de la République populaire en octobre 1949. Elle comptait davantage, bien sûr, sur le plan politique, dans le contexte de la guerre froide, avec d'abord sa rupture avec l'Union soviétique, puis son rapprochement spectaculaire avec Washington à la faveur du voyage historique de Richard Nixon en 1972. Mais à nouveau, sans doute pas assez pour occuper alors les premiers rôles de la transformation d'un monde dominé et structuré par l'affrontement américano-soviétique. En 2026, au risque de l'évidence, il est devenu impensable d'évoquer la transformation profonde du monde sans faire une place centrale à ce qu'est devenue la Chine depuis 1978, début de l'ère officiellement appelée d'ouverture et de réforme, et encore moins d'évoquer notre avenir commun sans s'arrêter de façon approfondie sur la trajectoire de la Chine, sur sa compétition avec les États-Unis pour la première place mondiale, et en inférer quelques réflexions pour l'Europe et sa propre relation avec la Chine. Mesdames et messieurs, en un demi-siècle, l'ampleur des bouleversements survenus en Chine est probablement sans équivalent dans l'histoire des hommes. Et il n'est sans doute pas excessif d'estimer que ce phénomène entraîne désormais à son tour des changements d'une dimension inédite pour notre monde. D'abord et avant tout parce que la Chine, à la faveur de ces décennies, a sorti de la pauvreté près de 800 millions d'hommes et de femmes. Le gouvernement chinois le fait très légitimement valoir avec fierté, en continuant par ailleurs de revendiquer pour le pays une appartenance au monde en développement qui lui permet de s'affirmer comme le pays chef de file d'un Sud global, au contour pourtant flou. Vous me permettrez ici quelques chiffres pour illustrer cette progression vertigineuse. Je le disais, la richesse du pays par habitant s'élevait à 156 dollars en 1976, à la veille des réformes, et en faisait par conséquent l'un des pays les plus pauvres du monde au regard de ce critère. La Chine aujourd'hui affiche un revenu de 14 000 dollars par habitant. C'est un chiffre désormais comparable à d'autres grandes économies émergentes comme la Turquie ou le Mexique. Les taux de croissance à deux chiffres appartiennent certes au passé, mais la tendance permet, selon le Fonds monétaire international, d'entrevoir un montant possible de 20 000 dollars par habitant pour le début des années 2030. Mais il y a lieu surtout de rapporter ces chiffres à la taille du pays et de sa population d'1,4 milliard d'habitants, soit 17% de la population mondiale. Car c'est évidemment cela qui fait la dimension systémique du miracle économique chinois. La Chine est depuis 2010 la deuxième économie du monde. Avec près de 20 000 milliards de dollars de revenus, elle est certes loin des États-Unis, qui avoisinent de leur côté 30 000 milliards de dollars, mais très nettement devant les économies suivantes que sont l'Allemagne et le Japon, qui se situent, elles, autour de 5 000 milliards de dollars. Et à population équivalente, l'économie chinoise représente aujourd'hui entre 4 et 5 fois celle de l'Inde. Arrêtons-nous un instant à présent, si vous le voulez bien, sur les provinces de Chine. On observe que, par exemple, la riche province méridionale du Guangdong, qui abrite en particulier les métropoles de Canton et de Shenzhen et compte près de 130 millions d'habitants, a un poids économique équivalent à celui de la Corée ou de l'Australie et exporte à elle seule autant que le Japon. Trois des provinces centrales de la Chine, que sont le Hubei, le Hunan, la province de naissance de Mao Zedong, et le Jiangxi, pourtant bien moins riches que les provinces du littoral, affichent ensemble un PIB équivalent à celui du Brésil. Au-delà des chiffres, ce miracle économique chinois est palpable et nombreux sont nos compatriotes à en faire l'expérience, en comparant la Chine qu'ils observent aujourd'hui à celle qu'ils ont pu connaître à la faveur de ces jours antérieurs. Voyager en Chine dans les années 80 et 90 restait une activité complexe, inconfortable pour la plupart des usagers des transports. Aujourd'hui, avec ses aéroports futuristes, ses trains à grande vitesse, ses infrastructures routières multipliées, ses métros impeccables et ses ports décarbonés, la Chine est passée du tiers-monde à la pointe de la modernité. Le réseau ferroviaire a plus que doublé ces 20 dernières années, avec en particulier plus de 50 000 km de lignes à grande vitesse, soit près de 6 fois le réseau de l'Union européenne. Dans le domaine du transport urbain, Pékin avec 30 lignes et Shanghai se disputent d'une année sur l'autre la première place mondiale en termes de taille de réseau de métro. Et à l'exception de Moscou, les 10 réseaux de métro les plus étendus au monde appartiennent tous à des villes chinoises. Le métro de Xi'an, le métro de Zhengzhou, ville dont sans doute trop peu de nos compatriotes sont familiers, sont plus étendus que les réseaux de métro de Londres ou de New York. Les applications sur téléphone mobile se sont généralisées et facilitent tous les déplacements, comme par exemple pour déverrouiller en quelques secondes l'un des 8 millions de vélos en libre service aujourd'hui disponibles dans les villes chinoises. Dans le domaine de l'énergie, les progrès sont tout aussi fulgurants. La première centrale nucléaire chinoise à Tianshan, dans la province du Zhejiang, proche de Shanghai, conçue avec l'aide de la France, est entré en fonctionnement en 1991. Le parc nucléaire chinois est aujourd'hui équivalent à celui de la France, avec 58 réacteurs, mais 30 sont en construction. Dans le domaine des énergies renouvelables, qui représentent déjà 20% de la consommation d'énergie en Chine, le pays a installé l'an dernier sur son territoire une capacité permettant de couvrir à elle seule l'équivalent des besoins en électricité de l'Allemagne. Rappelons toutefois ici que la Chine continue aujourd'hui à s'appuyer de façon massive sur des énergies fossiles, puisque le charbon représente en particulier plus de 50% de son mix électrique. Prenons enfin l'exemple des paysages urbains. La trajectoire chinoise est incarnée, par exemple, par le succès de Shenzhen, village du pêcheur, il y a 40 ans, du delta de la rivière des Perles, dans le sud du pays, promu laboratoire des réformes par Deng Xiaoping, aujourd'hui centre manufacturier et technologique de 14 millions d'habitants, rivalisant avec Hong Kong et Canton, et siège de nombreuses multinationales chinoises de premier plan, comme Huawei dans les télécommunications ou BYD dans le domaine automobile. En dehors des questions de répartition des richesses et de qualité de vie, ces chiffres illustrent le contrat jusqu'ici rempli entre les dirigeants et la population, c'est-à-dire le maintien d'un système politique en échange de la progression rapide de l'économie et du principe selon lequel chaque génération vivra mieux que la précédente. Contrat interrompu de crise néanmoins, politique en juin 1989, financière en 2008, sanitaire entre 2020 et 2023. Mais la trajectoire n'en reste pas moins crédible, d'une Chine construisant les bases d'une puissance faisant jeu égal à plusieurs égards avec les États-Unis en 2049, au moment où le pays célébrera le centenaire de la fondation de la République populaire, modèle d'un développement réussi selon les principes de la pensée Xi Jinping, c'est-à-dire une combinaison hautement centralisée et contrôlée du modèle politique de Mao Tse-tung avec les réformes pragmatiques de Deng Xiaoping, en route vers une nouvelle centralité mondiale, le rêve chinois, selon l'expression du président Xi Jinping. On a relevé souvent, à juste titre d'ailleurs, les limites environnementales, mais aussi sociales de cette marche forcée, conduisant à un développement destructeur de ressources. Qui ne se souvient pas, en effet, des villes polluées de la Chine des années 1990 et 2000, et d'une qualité de vie dégradée, où le développement durable était au fond un sujet très secondaire. Les Jeux olympiques de Pékin en 2008 ont marqué à cet égard un tournant. Non seulement les grandes villes, mais aussi des cités moyennes, voire des agglomérations très excentrées, ont intégré un développement vert, répondant ainsi à une forte pression des populations qui ont su faire valoir leurs revendications, qui ont nourri aussi les investissements dans les transports, les véhicules électriques, les énergies alternatives et ouvert ainsi de nouveaux domaines à l'excellence technologique. Mesdames et messieurs, la prééminence industrielle britannique du XIXe siècle avait donné lieu à l'expression d'atelier du monde. Qu'elle soit désormais appliquée à la Chine en dit assez sur le passage fulgurant de témoins auquel nous avons assisté. La Chine, c'est aujourd'hui près du tiers de l'industrie mondiale, 60% de la production des terres rares, 90% de leur raffinage. Et aux productions de masse d'objets de consommation courante, se sont ajoutées des productions de produits de haute technologie, et l'objectif de prendre la tête des nouvelles révolutions technologiques, à commencer par la robotique. L'atelier du monde, mesdames et messieurs, devient chaque jour un peu plus le laboratoire du monde. L'idée répandue dans les années 2000 et cultivée en particulier au Japon de conserver un coup d'avance sur l'atelier chinois n'a dans de très nombreux cas plus de sens. Le coup de tonnerre qu'a représenté par exemple l'an dernier le modèle d'intelligence artificielle conçu par DeepSeek doit nous faire anticiper d'autres avancées spectaculaires soutenues par une volonté politique résolue. Les succès des plateformes Alibaba, Shein, Temu, JD.com sont des exemples de la capacité de la projection mondiale de l'e-commerce chinois au service de sa production. Et pour faire écho aux propos tenus devant vous par le président Levitt le 5 janvier dernier, sur la révolution qu'a représentée depuis le début du XXIe siècle l'expansion du transport maritime à travers les conteneurs et les porte-conteneurs, je voudrais rappeler ici que la Chine abrite aujourd'hui 7 des 10 premiers ports du monde. Shanghai en tête, Ningbo en troisième, Shenzhen en quatrième, Singapour n'occupant, si l'on peut dire, que la seconde marche du podium. Cette puissance commerciale se traduit par des déséquilibres que nous ne connaissons que trop bien. 1 200 milliards d'excédent commercial en 2025, en progression de 20% par rapport à 2024, excédent qui se répartissait en 2024 schématiquement en trois parties égales, 300 milliards de dollars sur les États-Unis, 300 milliards vis-à-vis de l'Europe et autant sur le reste du monde. Le plus grand déséquilibre commercial dans l'histoire de l'humanité, selon la formule désormais convenue à Bruxelles. Ce déséquilibre, lié à une politique de l'offre qui conduit la Chine à représenter à elle seule 30% de l'investissement mondial, mais seulement 13% de la consommation mondiale. Ces déséquilibres sont devenus insoutenables pour l'ensemble des partenaires de la Chine. Face à la dépendance forte aux exportations que ces choix politiques ont générées, Pékin a décidé pour le prochain plan quinquennal de stimuler davantage sa demande intérieure afin de diminuer la dépendance de l'économie chinoise vis-à-vis de l'extérieur. Selon la formule employée récemment à Davos par le vice-premier ministre chinois chargé de l'économie, M. He Lifeng, il s'agit d'ajouter une Chine désormais marché du monde à la Chine atelier du monde. L'avenir dira si les réformes structurelles de très grande ampleur indispensables à cette fin seront en rendez-vous. En dépit des succès que je viens d'évoquer, le modèle de croissance chinois connaît aussi des limites internes qui constituent autant de facteurs de risque que sur le plan économique. Persistance d'entreprises publiques non rentables, concurrence irrationnelle et déflationniste entre des entreprises créées souvent sur des prêts de faveur, ce que l'on appelle aujourd'hui la fameuse concurrence involutive, la corruption, l'endettement des collectivités locales. Les travers d'un système spéculatif ont notamment conduit, en 2012 puis en 2022, à l'explosion de bulles immobilières qui ont laissé des constructions vides ou inachevées dans tout le pays et des épargnants qui ont vu fondre leur patrimoine et se montrer, du même fait, moins confiants dans l'avenir. Une donnée fondamentale pèse d'autre part très lourdement sur le rêve chinois du président Xi, l'avenir démographique de la Chine, objet au demeurant de préoccupations aiguës de la part des dirigeants du pays. L'hiver démographique est déjà là, comme d'ailleurs dans les autres pays d'Asie orientale, la Corée, le Japon. La Chine a enregistré en 2025 le plus faible nombre de naissances depuis 1949, et selon les projections des Nations Unies, le pays pourrait perdre jusqu'à la moitié de sa population d'ici la fin du siècle. De 1,4 milliard d'habitants à 700 millions d'habitants, avec les conséquences massives et les incertitudes que cette chute brutale est susceptible d'entraîner. La prise en charge sanitaire et financière d'une population âgée toujours plus importante et à un horizon certes plus lointain, un moindre dynamisme de l'économie et de sa capacité de création et d'innovation. Les objurgations et les incitations idéologiques n'indiquent pas cette tendance. La limitation autoritaire des naissances trouve naturellement difficilement son contraire. Le coût des logements et de l'éducation, l'émancipation des femmes qui les conduit désormais souvent, en particulier en milieu urbain, à rejeter les injonctions sociales de la famille traditionnelle chinoise. Les exigences attendues à l'égard des hommes en matière de réussite sociale et financière comme condition au mariage, le développement de l'individualisme consumériste sont souvent relevés parmi les explications de cette évolution. Et on s'interroge aussi sur les attitudes de fuite d'une partie de la jeunesse qui pratiquerait de façon de plus en plus large, et variable d'ailleurs dans ses modalités, un retrait, le tangping, littéralement rester couché, une sorte de résistance passive à un ordre et à une compétition devenue excessivement exigeante. Comme si précisément la promesse fondamentale du régime de conditions de vie meilleures à chaque génération ne faisait plus l'objet d'une confiance absolue. Mesdames et messieurs, la trajectoire fulgurante de la Chine en l'espace de quelques décennies que j'ai tenté d'esquisser, les perspectives qui s'ouvrent devant elle, et plus encore les conséquences à l'échelle du monde de ces bouleversements chinois, sont majeures pour l'avenir du monde, par leur rapidité sans aucun doute, mais je le disais, certainement plus encore par la magnitude du phénomène, puisque nous parlons encore une fois du pays qui était jusqu'à il y a 2 ans le pays le plus peuplé du monde et qui figure encore très loin devant les pays qui sont dans le classement derrière lui, l'Indonésie et les États-Unis. Et très logiquement se pose donc aujourd'hui la question de l'avenir d'un ordre mondial progressivement organisé au fil du XXe siècle autour de la prééminence des États-Unis. Prééminence qui a commencé avec le suicide de l'Europe, qui a représenté la Première Guerre mondiale, s'est renforcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur les ruines de la barbarie nazie en Europe et le retard de développement économique accentué par l'ampleur des destructions de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Ordre seulement contesté pendant la seconde moitié du XXe siècle par l'Union soviétique, qui a conduit à ce qui a été convenu d'appeler le condominium américano-soviétique, et enfin la disparition de l'URSS en 1991, qui ne l'a plus laissé en lice que l'hyperpuissance américaine, pour reprendre la formule d'Hubert Védrine. Nous sommes donc aujourd'hui devant une question existentielle pour l'avenir de notre monde, celle de la relation entre la Chine et les États-Unis. L'intensification programmée de la compétition sino-américaine rend-elle un conflit des deux puissances inéluctable ? Allons-nous au contraire vers un nouveau condominium, cette fois-ci sino-américain, un G2 comme on l'entend parfois ? Il est bien entendu impossible de répondre de façon définitive à une question qui justifierait par exemple d'en appeler à l'art divinatoire chinois du livre des mutations, le I Ching. Mais tentons plus modestement de livrer quelques éléments de réflexion. Il est sans doute d'abord utile de tenter de caractériser l'objectif de chacun des deux acteurs, la place qu'ils entendent occuper dans les affaires du monde et leur éventuel degré d'ouverture à ce que leur objectif fondamental puisse être, le cas échéant, imparfaitement atteint pour prix d'empêcher un conflit. Du côté américain, vous me permettrez d'être bref, car votre président et l'ambassadeur Philippe Étienne que vous avez reçu sont infiniment mieux placés que moi pour vous livrer à cet égard l'analyse la plus pertinente. Mais il est néanmoins possible de formuler une hypothèse. Compte tenu de la mission civilisatrice au cœur de la pensée politique américaine, du moins jusqu'à une date récente, ainsi que la trajectoire historique et politique du pays depuis son accession au premier rang des puissances du monde, au-delà des administrations qui se sont succédées, les États-Unis entendront résolument conserver leur suprématie face à la Chine, tout sujet confondu, militaire, économique, technologique, culturel, universitaire. Du côté chinois, la question se pose sans doute dans des termes différents. À l'examen de l'histoire et de la pensée politique chinoise, y compris à travers aujourd'hui l'objectif fondamental de la grande renaissance de la nation chinoise, il est possible de formuler l'hypothèse suivante. Le but recherché par la Chine n'est pas tant celui de devenir la puissance dominante, mais plutôt de redevenir la puissance centrale. La Chine s'est historiquement pensée au centre du monde, entourée d'une périphérie qui, dans l'histoire de l'Empire chinois, était naturellement conçue comme une périphérie tributaire. C'est d'ailleurs le sens même du mot Chine en langue chinoise, Zhongguo, le pays du milieu. Nous sommes donc devant un schéma très différent de la conception occidentale et donc américaine de la puissance qui se conçoit de son côté en surplomb plutôt qu'au centre. Pour autant, bien entendu, même si les critères de puissance peuvent différer et que la conception et la méthodologie pour remporter la compétition traduisent l'histoire et la pensée stratégique de chaque État, il y a tout lieu de penser qu'avec la poursuite de l'ascension chinoise, cette compétition va se renforcer dans tous les secteurs. Et en tout état de cause, aujourd'hui, la Chine se prépare à l'intensification de cette compétition au motif avancé, probablement à juste titre, que l'Amérique, je le disais, n'acceptera pas de se laisser dépasser dans les domaines fondamentaux de la puissance. Plusieurs choix politiques majeurs de la part de Pékin reposent sur cette conviction. Sur le plan économique, d'abord, la Chine cherche résolument à réduire ses dépendances à l'égard du reste du monde, et en particulier des États-Unis. C'est un choix politique qui remonte à minima au milieu de la décennie précédente, avec la publication en 2015 du plan Made in China 2025, définissant 10 secteurs prioritaires, notamment les technologies de l'information, la robotique avancée, ou encore les nouvelles mobilités, dont les véhicules électriques, pour lesquels l'objectif était de parvenir, en l'espace de 10 ans, à s'affirmer comme une puissance manufacturière de premier plan et se soustraire à la dépendance internationale. C'est vrai également en matière agricole. La Chine est résolument engagée aujourd'hui dans la recherche d'une autosuffisance alimentaire complète. Pour l'ensemble des productions agricoles, son degré d'autonomie atteint aujourd'hui 95% et elle s'appuie pour cela sur une agriculture intensive en investissant toujours plus dans de nouvelles solutions technologiques. Il s'agit également pour la Chine de siniser toujours davantage les chaînes de valeur. Les orientations de Made in China 2025 ont été confirmées 5 ans après son adoption, en 2020, avec le concept de circulation duale, dont l'objectif affiché était de rééquilibrer la croissance du pays, mais dont le résultat a surtout été une réduction des dépendances de la Chine aux importations et une extension de la domination des chaînes de valeur à l'exportation. Les orientations du 15e plan quinquennal, qui a débuté il y a quelques semaines, s'inscrivent dans la même perspective. La modernisation industrielle et la souveraineté technologique sont réaffirmées comme les deux premières priorités de ce plan, même si, je le souligne à nouveau, la stimulation de la demande intérieure progresse parmi les priorités affichées. Dans le domaine des technologies avancées, la volonté chinoise de compter sur ses propres forces, pour reprendre une terminologie maoïste, est évidente. Développement des modèles d'intelligence artificielle, DeepSeek, investissement massif dans l'industrie des semi-conducteurs, développement d'un programme aéronautique civil autonome déjà opérationnel aujourd'hui avec l'avion C-919, l'équivalent de notre A320, et le projet d'avion long-courrier C-929. Programme spatial qui a déjà conduit la Chine à être aujourd'hui de loin la deuxième puissance spatiale mondiale, avec 90 lancements réussis l'an dernier, et qui vise à faire du pays la première puissance spatiale à l'horizon 2049 avec des projets de vol habité sur la Lune avant la fin de cette décennie, et le programme d'exploration martienne à l'horizon du milieu du siècle. Sur le plan économique, la compétition sino-américaine a livré des enseignements majeurs l'an dernier. Alors que les États-Unis, à la faveur de la première administration de Trump, avaient été en mesure d'imposer leur vue dans un deal qui leur était nettement favorable, les tensions de l'année 2025 constitue un révélateur et en réalité certainement un tournant. La Chine a en effet démontré l'an dernier, avec l'épisode de la guerre tarifaire intervenue après le prétendu Liberation Day du 1er avril voulu par Donald Trump, sa volonté et sa capacité à rendre coup pour coup, y compris en utilisant l'arme du contrôle aux exportations. À ce jeu de surenchère, les signaux d'inquiétude manifestés par les marchés financiers aux États-Unis ont conduit l'administration américaine à chercher en premier la désescalade. Cet épisode a aussi marqué un tournant dans l'utilisation des instruments à la disposition de la Chine. Elle n'a en effet pas hésité à user de sa position ultra-dominante sur les terres rares, envoyant un signal à tous ses partenaires économiques qu'ils doivent prendre désormais en compte un risque potentiel de rupture d'approvisionnement sur ces matériaux indispensables dans le domaine industriel. L'avenir de la compétition sino-américaine se joue également dans le domaine de la monnaie. La Chine a en effet fait le choix d'une internationalisation résolue du yuan. Des progrès importants ont été accomplis vers cette internationalisation. Le yuan représente aujourd'hui 3,5% des règlements internationaux selon le réseau SWIFT, contre 2% en 2023. Mais il y a lieu, dans ce domaine, de relever que le yuan renminbi ne reste que la 5e monnaie de transaction, très loin derrière les États-Unis, même si trois facteurs favorisent ce mouvement d'internationalisation de la monnaie chinoise. Les sanctions, l'usage du yuan est par exemple devenu majeur en Russie, l'intégration commerciale et, dans une moindre mesure, le soutien de la Chine à des pays à la balance des paiements vulnérables. Il semble toutefois, dans ce domaine, difficile d'envisager que la devise chinoise puisse rivaliser avec le dollar sans changement profond de son régime de change et de son système financier. Et comme ces derniers représentent des piliers importants de son modèle économique, qui ne cherche en aucune manière à maximiser les rendements, le progrès de cette internationalisation seront sans doute seulement progressifs. Dans le domaine militaire maintenant, la projection de la puissance chinoise et l'ascension parallèle de ses forces sont restées, au moins pendant un temps, plus discrètes aux yeux du grand public. La dernière intervention de l'armée populaire de libération, en 1979, pour punir le parti frère vietnamien de son intervention au Cambodge destinée à faire chuter le régime Khmer Rouge, avait donné lieu d'ailleurs à des interrogations sur les capacités chinoises et ouvert une période de reconstruction. Les moyens déployés ont été considérables et la volonté tout aussi certaine. Pour 2025, les dépenses sont évaluées à près de 250 milliards de dollars, environ le quart du budget américain, soit un quintuplement du niveau annuel par rapport au début des années 2000, pour autant, bien entendu, que les statistiques soient représentatives de la progression réelle. Les liens entre capacité militaire et progrès de la technologie civile sont facilités par le système hautement centralisé où les passerelles entre recherche, renseignement, université et industrie sont institutionnalisées. Et elle a permis le développement sur l'ensemble des capacités terrestres, maritimes et aériennes de moyens permettant à l'armée populaire de libération d'être aujourd'hui dotée de matériel modernes et performants. L'arsenal nucléaire chinois s'est également considérablement développé et modernisé. De même, l'admission au service actif du porte-avions Futian d'environ 80 000 tonnes en novembre dernier, doté de catapultage électromagnétique, la Chine étant aujourd'hui le seul pays au monde avec les États-Unis à maîtriser cette technologie, a marqué une étape symbolique des ambitions maritimes de la Chine et plus largement de la volonté de concrétiser la grande renaissance de la puissance chinoise dans son espace immédiat avec la réunification de Taïwan, objectif fondamental avec les yeux fixés sur le 100e anniversaire de la République populaire et à plus brève échéance sur le centenaire de l'armée populaire de libération. Ce renforcement de la compétition sino-américaine ne se limite pas à l'économie, au commerce ou même à la puissance de l'outil militaire. Il est également politique. C'est aujourd'hui une bataille de l'influence mondiale qui est en jeu, dans les organisations internationales tout d'abord. La Chine a d'abord investi considérablement les structures des Nations Unies. Son influence y renforce d'autant plus que les États-Unis les désertent, comme ils viennent de le faire avec l'OMS, tout comme ils désertent le champ d'influence politique que représentent les enjeux mondiaux pour l'avenir du monde, que sont la santé, je viens de le signaler s'agissant de l'OMS, mais également le climat, avec le retrait annoncé par Washington des accords de Paris, alors qu'à l'inverse, la Chine, elle, investit ces champs. Et elle le démontre encore aujourd'hui avec l'annonce, il y a quelques jours, de sa candidature pour accueillir le secrétariat du nouveau traité sur la biodiversité des océans. Et il faut ajouter à cela les initiatives politiques et les institutions qui se créent sous l'impulsion de Pékin. Les nouvelles routes de la soie, bien entendu, l'œuvre maîtresse du président Xi Jinping. Et puis les quatre initiatives lancées également par le président chinois, initiative pour la gouvernance mondiale, initiative pour la sécurité mondiale, initiative pour le développement mondial et l'initiative pour la civilisation mondiale. Et puis aussi, par ordre chronologique, l'investissement chinois dans l'organisation de coopération de Shanghai, dans ce qui est devenu la banque des BRICS, dont le siège est à Shanghai, l'annonce l'an dernier de la création d'une organisation mondiale de la médiation, qui aura son siège à Hong Kong, ou encore d'une structure de régulation mondiale de l'intelligence artificielle. Fortement attaché à sa présence dans le système des Nations Unies et à son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine défend ses principes avec une lecture tournée vers une défense littérale de la souveraineté des États, mais aussi une désoccidentalisation de l'ordre mondial au profit d'une priorité donnée au développement et aux revendications d'un Sud global. C'est enfin la question des zones d'influence. On a beaucoup parlé, à juste titre, de l'influence de la Chine en Afrique. Mais le cas de l'Amérique latine est à cet égard extrêmement éloquent également, et je voudrais m'y arrêter un instant. La Chine y a gagné une influence considérable depuis 20 ans, dans l'arrière-cour américaine. Elle est devenue en 2019 le deuxième partenaire commercial de la région et le premier partenaire de l'Amérique du Sud. Elle absorbe aujourd'hui près d'un tiers des exportations du Chili, de Cuba, du Brésil et du Pérou, et elle est le premier prêteur de la région où elle disposait par ailleurs de près de 50 instituts Confucius l'an dernier. Et j'ajoute à cela que 23 pays latino-américains et caribéens ont adhéré à l'initiative des nouvelles routes de la soie. Cette progression de la Chine dans l'hémisphère américain est bien justement le motif avancé par les États-Unis aujourd'hui pour tenter d'y faire régner une nouvelle doctrine Monroe. Le Panama et son canal ont été la première cible de l'administration américaine, et bien entendu plus récemment le Venezuela et ses ressources pétrolières, mais d'autres pays sont également concernés, comme le Pérou, avec le port de Chancay à proximité de Lima, dont le développement a été conduit par le géant chinois du transport maritime Cosco. La Chine a pu compter, là comme ailleurs, sur son initiative des nouvelles routes de la soie, qui prolonge et accompagne le dynamisme économique extérieur du modèle chinois. Prêts et projets de développement ont permis des accès aux matières premières, notamment en Asie centrale, en Afrique, mais aussi en Europe, en complément de ce qui a pu être enregistré en Amérique latine. Ajoutons enfin que la politique de l'administration Trump, en Amérique latine comme ailleurs, brutalisant les relations de Washington avec ses alliés et partenaires, joue incontestablement au profit de l'influence de la Chine, qui s'évertue de son côté à souligner à quel point son comportement repose sur la prévisibilité et la stabilité. Le sommet de Tianjin, tenu en septembre, à la veille de la gigantesque parade militaire commémorant le 80e anniversaire de la victoire de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste, pour reprendre la formule employée par le gouvernement chinois, en témoigne. La compétition sino-américaine s'étend enfin au monde culturel, ainsi qu'au domaine universitaire et de la recherche. En matière culturelle, la Chine dispose aujourd'hui de 7000 musées contre 1500 il y a 20 ans. Elle est devenue aujourd'hui, derrière les États-Unis, le deuxième marché mondial de l'art, avec d'ores et déjà près de 18% des transactions. Ses productions cinématographiques et ses acteurs n'ont bien sûr pas encore aujourd'hui la dimension planétaire de celle d'Hollywood. Mais pour la première fois l'an dernier, un film chinois s'est imposé dans le palmarès des 5 productions les plus profitables de l'histoire. Et l'on commence à voir apparaître des outils populaires de soft power chinois. Le succès des figurines La Boubou de l'entreprise Popmart, du jeu vidéo Black Myth Wukong, dont le scénario plonge dans l'univers du grand roman classique chinois La Pérégrination vers l'Ouest, le Xiaoti, ou encore le célébrissime algorithme de TikTok. S'agissant de l'université, les États-Unis dominent toujours le haut du classement de Shanghai. Mais le rapport s'égalise à mesure que l'on remonte celui-ci. Dans le top 500 du classement de Shanghai, la Chine coiffe aujourd'hui les États-Unis d'une courte tête, 113 établissements pour la première, 111 pour les seconds. Et en matière de recherche, la Chine a dépassé les États-Unis depuis 2020 en nombre de publications scientifiques. Et selon l'indice établi par l'Institut australien de politique stratégique, sur 64 technologies critiques, parmi lesquelles les biotech, le quantique, l'intelligence artificielle, etc., la Chine est en tête dans 57 domaines contre 7 pour les États-Unis. Mesdames et messieurs, à l'intensification tous azimuts de cette compétition sino-américaine s'ajoute l'existence d'un risque mécaniquement croissant d'incidents à caractère militaire entre les deux pays dans le Pacifique, en particulier à l'intérieur de ce qu'il est convenu d'appeler la première chaîne d'îles, c'est-à-dire l'espace maritime compris entre le continent d'un côté, la péninsule coréenne, le Japon, Taïwan, les Philippines et l'île de Bornéo de l'autre, que l'on appelle traditionnellement mer de Chine orientale et mer de Chine méridionale. En effet, le renforcement considérable de la présence navale chinoise dans cette zone, couplé à une présence dense des armées américaines et de ses alliés et partenaires, notamment le Japon et les Philippines, conduit à toujours plus d'interactions entre les navires et les forces aériennes, en particulier dans les zones de friction stratégiques, mer de Chine du Sud et mer de Chine orientale. Les incidents ne sont pas nouveaux. Rappelons-nous par exemple celui de l'avion patrouilleur américain EP-3 au tout début du premier mandat de George W. Bush, mais leur risque d'occurrence est devenu aujourd'hui incomparablement plus élevé. Intensification de la compétition, augmentation mécanique des risques d'incident. Est-il possible, dans ces conditions, pour la Chine et les États-Unis, pour reprendre la terminologie de Graham Allison, d'échapper au piège de Thucydide? Celui qui voudrait, à l'image de Sparte et de l'Athènes décrite par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, que l'affrontement entre la puissance installée et la puissance montante soit inéluctable. La réponse simple est non. Pour rester un instant sur l'analyse d'Allison, s'agissant des 16 cas historiques qu'il identifie de situation de piège de Thucydide, L'affrontement a pu être évité dans 4 occurrences. Mais au-delà de l'analyse académique, ce sont bien entendu les choix politiques fondamentaux des puissances qui en décideront. Du côté américain, plusieurs familles de choix existent. Celle de la compétition encadrée en particulier, qui était celle de l'administration Biden, reposant sur le constat d'une rivalité conduite à s'intensifier, mais qu'il convient de part et d'autre de piloter avec sang-froid, précisément pour réduire les risques d'affrontement. La politique actuelle de l'administration américaine est plus difficile à cerner, parce qu'elle est marquée en Asie et vis-à-vis de la Chine d'un degré plus élevé d'imprévisibilité, comme l'a montré l'année 2025. Du côté chinois, l'objectif affiché, je l'ai dit, est d'éviter un affrontement, mais tout en y étant pleinement préparé. Mais il reste qu'au-delà des choix et des calculs politiques, des incertitudes majeures demeurent. Celui de l'incident déclencheur, par exemple, à l'image de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914. Mais davantage encore, celui de la question fondamentale taïwanaise. Du côté chinois, l'objectif est parfaitement clair et théorisé. La grande renaissance de la nation chinoise, qui devra avoir été achevée avant 2049, c'est-à-dire le centenaire de la fondation de la République populaire, doit nécessairement passer par la réunification de la Chine, c'est-à-dire le rattachement de Taïwan au continent. Pékin fait valoir que la Chine est aujourd'hui le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité à ne pas avoir achevé sa réunification. La Chine veut avancer de façon pacifique dans cette voie, mais elle ne s'interdit en rien l'usage de la force pour y parvenir. Elle l'a même fait rentrer dans son ordre juridique avec l'adoption de la loi anti-sécession dès 2005. C'est dans cet esprit que le président Xi Jinping a donné comme objectif central à l'armée populaire de libération d'être prête à une éventuelle confrontation dès 2027. J'ajoute que pour Pékin, le sujet taïwanais est non seulement fondamental en soi, mais il figure également au cœur de la relation avec Washington. Pour preuve, la formule retenue dans le communiqué chinois qui a suivi la conversation téléphonique des deux présidents il y a moins d'une semaine, le 11 février, et que vous me permettrez de citer ici. Le président Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan est le sujet le plus important des relations entre la Chine et les États-Unis. Taïwan est un territoire chinois. La Chine doit sauvegarder sa propre souveraineté et son intégrité territoriale et ne permettra jamais à Taïwan d'être séparé. Les États-Unis doivent gérer la question des ventes d'armes à Taïwan avec prudence. Du côté américain, les paramètres de l'équation taïwanaise sont connus. Ils reposent en particulier sur la loi américaine dite Taiwan Relations Act de 1979, qui donne l'obligation aux autorités américaines d'aider Taïwan à disposer des moyens de se défendre. Pour le reste, les États-Unis ont vécu jusqu'à l'avènement de l'administration Trump II avec la doctrine dite d'ambiguïté stratégique qui consistait schématiquement, de la part de Washington, à donner des réassurances stratégiques sans pour autant donner de blanc-seing absolu. Sur le sujet taïwanais, les choix du président Trump sont là aussi plus difficiles à lire. Je vous renvoie en particulier aux propos qu'il a tenus au New York Times le 8 janvier dernier, où il déclarait, je cite, que le règlement de la question taïwanaise relève de la décision de Xi Jinping. Quelques semaines plus tôt, toutefois, les États-Unis avaient annoncé une vente d'armes d'un montant sans précédent à Taïwan pour une valeur de 11 milliards de dollars. Le président Trump a également fait part à plusieurs reprises de sa conviction selon laquelle la Chine ne prendra pas d'initiative à caractère militaire aussi longtemps qu'il sera l'hôte de la Maison-Blanche. Cette question de Taïwan sera au cœur de la visite que le président Trump effectuera en avril prochain en Chine et devrait logiquement poser le cadre dans lequel le sujet évoluera entre Pékin et Washington, peut-être même jusqu'à la prochaine élection présidentielle à Taïwan prévue en janvier 2028. Et puisque nous parlons de l'année 2026, au moment où nous nous apprêtons par ailleurs à entrer demain dans la nouvelle année lunaire, celle du cheval de feu, il est possible de penser qu'à défaut d'un incident majeur, les discussions engagées entre la Chine et les États-Unis pour organiser cette année des visites croisées de leurs présidents dans l'autre pays conduira la Chine et les États-Unis à être tout particulièrement attentifs en 2026 à éviter les risques de dérapage, peut-être même à ménager des effets d'annonce, pourquoi pas par exemple au profit de Boeing lorsque Donald Trump sera à Pékin début avril. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, pour nous, Européens, quelles seront les conséquences de cette intensification de la compétition sino-américaine et des risques qui l'accompagnent ? Le premier constat est simple. À partir du moment où, pour la Chine, comme au demeurant pour les États-Unis, le sujet le plus fondamental de politique étrangère est précisément la compétition qui met les deux pays aux prises l'un avec l'autre, la tentation peut exister de voir toutes leurs autres relations, y compris avec l'Europe, à travers ce prisme. Du côté américain, sans là encore m'attarder sur cet aspect de la question, il est frappant, pour évoquer la période la plus récente, d'observer que les déplacements en Chine, en janvier successivement, des premiers ministres canadiens et britanniques, ont été analysés à Washington à l'aune des relations respectives des deux pays avec les États-Unis. Comme si, au fond, la relation avec la Chine des alliés de l'Amérique avait vocation à être déterminée, c'est-à-dire en pratique limitée, par les États-Unis. De façon symétrique, du côté de Pékin, la tentation semble exister chez certains analystes de politique étrangère, et peut-être même de certains responsables chinois, de considérer aujourd'hui l'Europe de deux façons. D'abord, comme un acteur dépendant de sa relation d'alliance avec les États-Unis du fait d'une alliance asymétrique, et par conséquent peu capable de définir son propre cap et de défendre ses intérêts. Une Europe qui ne serait au fond rien de plus qu'une pièce sur l'échiquier sino-américain, une tour ou un cavalier dans la main américaine dans le grand jeu qu'il oppose à Pékin. D'autre part, dans la même logique, l'Europe serait un objet politique vis-à-vis duquel les choix de la Chine devraient faire primer la relation avec les États-Unis. En d'autres termes, les ressorts de la politique chinoise à l'égard de l'Europe ne seraient pas tant mis en mouvement par l'intérêt propre de la relation Chine-Europe que par une volonté d'affaiblir le lien transatlantique et avec lui l'avantage que représente Washington, son alliance avec l'Europe dans sa compétition avec la Chine, si tant est naturellement que ces schémas soient toujours jugés pertinents par ailleurs à Washington, mais c'est là un autre sujet. Mesdames et messieurs, tout l'enjeu est, pour tout dire, je crois, tout le devoir de l'Europe aujourd'hui est d'échapper à ce rôle d'objet de la compétition sino-américaine et de se construire comme le troisième pilier d'un ordre mondial, facteur de stabilité. Nous en avons à l'évidence la capacité. Et il nous appartient d'en avoir également l'ambition. La capacité, d'abord, elle est double. Elle est d'abord politique et elle se fonde sur cette civilisation de l'esprit qu'évoquait devant vous Jean-Noël Barrot il y a quelques semaines. La fidélité à nos valeurs, le respect des libertés, l'attachement profond au multilatéralisme et à un ordre mondial fondé sur des règles, la capacité à nous défendre de façon autonome doivent continuer à constituer pour nous nos atouts politiques les plus fondamentaux. Cette capacité, elle est économique aussi, et elle s'appuie sur un atout dont nous ne mesurons pas toujours nous-mêmes l'importance pour nos partenaires comme la Chine. Je veux parler de la puissance de notre marché. Le marché européen est indispensable aux entreprises chinoises, comme au demeurant aux entreprises américaines. Et il l'est d'autant plus, je le disais tout à l'heure, d'autant plus aujourd'hui que la demande intérieure chinoise est insuffisante et que les débouchés à l'exportation sur notre marché sont cruciaux pour que la Chine puisse maintenir son taux de croissance. À cette double capacité, donc, doit s'ajouter notre ambition collective fondée sur la définition et la promotion de nos propres intérêts. Elle requiert comme préalable la constitution d'une unité européenne toujours plus forte. Et à cet égard, vous me permettrez de faire preuve ici d'un raisonnable degré d'optimisme. Aux analyses qui font valoir aujourd'hui l'existence d'une prétendue désunion européenne dans notre relation avec la Chine, il est sans doute utile d'opposer une mise en perspective. Même si l'Union européenne et la Chine ont des relations déjà longues, puisque nous avons célébré 50 ans de relations diplomatiques entre l'Union et la Chine l'an dernier, il est malheureusement sans doute juste de dire que nous n'avons pendant longtemps pas eu suffisamment de politique collective vis-à-vis de Pékin. Les logiques nationales, fondées notamment sur la promotion des intérêts commerciaux de chacun des États membres, l'ont longtemps emporté. Et je crois pouvoir dire ici que je l'ai vécu, par exemple, aux côtés de vous, Monsieur le Président, en 2008, lorsque l'Union européenne s'est révélée incapable de parler d'une seule voix lors des troubles graves survenus cette année-là au Tibet. Mesdames et messieurs, pour la première fois en 2019, l'Union européenne s'est donné une doctrine. C'est ce que l'on, vis-à-vis de la Chine, c'est ce que l'on a coutume d'appeler le triptyque européen, qui consiste à considérer la Chine à la fois comme un partenaire de coopération, un concurrent et un rival systémique. C'est une doctrine qui unit aujourd'hui les Européens dans leurs relations avec la Chine. Que signifie-t-elle ? Que nous partageons d'abord des intérêts avec la Chine qui doivent nous conduire à renforcer nos liens, c'est-à-dire, par exemple, dans ce que l'on a coutume de qualifier des enjeux globaux, les changements climatiques, la biodiversité, l'avenir des océans. Que nous sommes par ailleurs concurrents dans le domaine économique, ce qui n'est bien sûr pas une difficulté en soi, mais qui requiert que les conditions de concurrence des entreprises européennes avec les entreprises chinoises soient rééquilibrées. Et enfin, il faut le dire, que nous sommes rivaux systémiques, car nos modèles politiques et nos valeurs, en particulier s'agissant des libertés individuelles, sont bien entendu éloignés. Au-delà de cette doctrine commune, il est essentiel que nous continuions à nous montrer unis en Europe sur chacun des sujets concrets qui nous séparent de la Chine, comme sur ceux qui nous rapprochent. Ceux qui nous séparent aujourd'hui sont de deux ordres. La relation économique et commerciale de la Chine avec la Russie, que la Chine présente comme n'étant dirigée contre personne, mais qui en tout état de cause pour effet de constituer pour la Russie un élément majeur de calcul dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. D'autre part, l'ampleur des déséquilibres commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. La Chine dispose aujourd'hui, je l'ai dit, d'un excédent commercial d'environ 300 milliards d'euros sur l'Europe, créant une situation de plus en plus insoutenable, nous devons impérativement trouver les moyens d'engager avec la Chine une résorption de ces déséquilibres en privilégiant autant qu'il est possible, bien entendu, la voie de la coopération. Et cette question, vous le savez, sera la grande priorité de la présidence française du G7 cette année et du sommet d'Évian en juin. Les sujets qui nous rapprochent sont tout aussi fondamentaux pour l'avenir de l'Europe que pour celui de la Chine. J'ai cité les enjeux globaux, je devrais y ajouter le multilatéralisme, le rôle fondamental des Nations Unies, les principes de sa charte, le rôle de son Conseil de sécurité. Ils ont d'autant plus de prix à un moment où ces questions font l'objet de la remise en cause radicale de la part des États-Unis, que vous savez. Et il y a tout un autre sujet dont on parle souvent moins et probablement à tort. C'est celui des échanges entre sociétés européennes et sociétés chinoises. Il est en effet aujourd'hui plus essentiel que jamais que les Européens et les Chinois, et singulièrement les plus jeunes d'entre eux, apprennent les cultures et la civilisation de l'autre. Dans le domaine universitaire, nous devons continuer à multiplier les efforts pour que les étudiants européens soient toujours plus nombreux à connaître la Chine, en apprendre la langue, l'histoire, les géographies, y effectuer des stages, des séjours d'études, une première expérience professionnelle. C'est le gage de l'avenir, c'est le gage de la relation de demain entre l'Europe et la Chine. Enfin, pour Pékin, si nous voulons continuer à nous affirmer comme un partenaire solide et autonome, nous devrons en apporter la preuve. De ce point de vue, la Chine fait aujourd'hui de la question du Groenland un test important pour la crédibilité de l'Europe. Et elle continuera à observer de façon très attentive la façon dont les Européens sauront afficher leurs intérêts communs et, en tant que de besoin, s'opposer aux volontés américaines qui les enfreignent. Dans les décennies qui sont devant nous, où l'avenir sera sans aucun doute marqué toujours plus par la compétition entre les États-Unis et la Chine, l'Europe a devant elle un choix. Elle peut être un acteur secondaire de cet équilibre, si elle se résigne à subordonner ses décisions politiques aux injonctions de l'un et de l'autre des deux puissances, mais elle peut aussi s'affirmer comme un pôle puissant, indépendant et un facteur de stabilité, pour autant qu'elle sache se montrer toujours plus unie. Vous connaissez le choix et l'ambition de la France. Je vous remercie.
Cher Bertrand, merci infiniment pour cet exposé absolument brillant.